Nous proposons de vous accompagner pour cette heure avec les Pères du Désert, ces moines ascètes qui vécurent surtout en Égypte et en Palestine du 3e au 15e siècle. Père fondateur de l'Église, richesse éblouissante que nous partageons avec nos frères orthodoxes. Ils développèrent la prière du cœur, l'invocation perpétuelle « Seigneur Jésus-Christ, ayez pitié de moi », ainsi que l'amour de la beauté éternelle, la philokalie et les moyens d'y parvenir, acquérir la paix intérieure, que l'on appelle l'hésychasme. L'échelle sainte de Jean Climac. Voici les différents principaux degrés qui conduisent l'homme jusqu'à Dieu. Il y a d'abord le renoncement, le détachement, l'exil volontaire, la pénitence, la pensée de la mort, l'affliction qui produit la joie, l'absence de colère et la douceur, la chasteté et la continence, la prière et la psalmodie, la veille corporelle, le discernement des pensées, des passions et des vertus, la sainte hésychaste du corps et de l'âme, c'est-à-dire la grande sérénité, la prière, sainte et bienheureuse mère des vertus, l'impassibilité, la charité, la foi et l'espérance. Aujourd'hui, de la pénitence diligente et efficace. La pénitence est une restauration du baptême. La pénitence est un pacte avec Dieu pour une seconde vie. Le pénitent est un homme qui va acheter l'humilité. La pénitence est une continuelle défiance des aises du corps. La pénitence est une pensée de condamnation que l'on porte contre soi-même et un insouciant souci pour soi-même. La pénitence est la fille de l'espérance et le renoncement au désespoir. Le pénitent est un coupable qui n'a plus à rougir. La pénitence est la réconciliation avec le Seigneur par la pratique des bonnes œuvres contraires aux péchés commis. La pénitence est la purification de la conscience. La pénitence est le support volontaire de toutes les tribulations. Le pénitent est l'artisan de son propre châtiment. La pénitence est une vigoureuse mortification du ventre et une blessure de l'âme fortement ressentie. J'avais entendu parler, faible que je suis, du genre de vie sublime et étrange, et de l'humilité que pratiquaient les habitants d'un monastère séparé qu'on appelait la prison. Ce monastère était sous l'autorité de cet homme dont j'ai déjà parlé, cette lumière des lumières. Aussi demandai-je à ce juste de me permettre de le visiter, ce qu'il m'accorda, ne voulant jamais en quoi que ce soit contrister une âme. Je me rendis donc au monastère des pénitents, cette véritable terre de ceux qui pleurent, et là je vis vraiment, si j'ose dire, ce que l'œil de l'homme insouciant ne vit jamais, ce que l'œil du paresseux n'entendit jamais, ce qui ne monta jamais au cœur de l'homme lâche. J'y vis des actions et des paroles capables de faire violence à Dieu, des activités et des attitudes capables de toucher aussitôt son amour pour les hommes. J'ai vu certains de ces innocents coupables qui se tenaient debout la nuit entière, en plein air jusqu'au matin, les pieds immobiles. Ils étaient misérablement accablés de sommeil, tellement ils faisaient violence à la nature, et cependant ils ne s'accordaient aucun repos. Au contraire, ils se faisaient des reproches, se tenaient éveillés en se châtiant et en s'invectivant. C'est pourquoi ils s'encourageaient les uns les autres et ils disaient « Courons, frère, courons, il nous faut courir et courir de toutes nos forces, car nous nous sommes laissés distancer par notre excellente communauté. Courons et n'épargnons pas cette chair impure et perverse qu'est la nôtre, mais tuons-la comme elle nous a tués. » Après être resté 30 jours dans la prison, moi si peu endurant, je retournais au grand monastère auprès du grand pasteur. Me voyant tout changé et comme hors de moi, il comprit dans sa sagesse la raison de ce changement et il me dit « Eh bien, Père Jean, tu as vu les combats de ces bons travailleurs ?»« Je les ai vus, Père, » répondis-je, « et j'ai été frappé d'admiration. Et j'estime plus heureux ceux qui, ayant failli, pleurent leur chute, que ceux qui ne sont pas tombés et ne pleurent pas sur eux-mêmes. Car leur chute les a fait se relever d'un relèvement qui n'est plus exposé au péril. Il en est certainement ainsi, me dit-il. Après nos chutes, combattons par-dessus tout le démon de la tristesse. Il se présente à nous au temps de la prière, et nous remettant en mémoire notre première familiarité avec Dieu, il s'efforce de détruire notre prière. Ne t'étonne pas de tomber tous les jours. N'abandonne pas la lutte, mais maintiens courageusement ton effort. Et ton ange gardien lui-même rendra hommage à ton endurance. Tant qu'une plaie est récente et vive, elle est facile à guérir. Mais les plaies anciennes, longtemps négligées et non traitées, sont difficiles à soigner. Elles nécessitent de longs efforts, et il faut même y appliquer le fer et le feu. Beaucoup, avec le temps, deviennent incurables. Cependant, tout est possible à Dieu. Si notre conscience cesse de nous faire des reproches, prenons bien garde que ce ne soit non à cause de notre pureté, mais parce que nous sommes plongés dans le mal. Le signe d'un vrai repentir, c'est de reconnaître que nous méritions toutes les tribulations visibles et invisibles qui nous arrivent, et même de plus grandes. Après avoir vu Dieu dans le buisson, Moïse retourna en Égypte, c'est-à-dire dans les ténèbres, et se remit à fabriquer des briques pour Pharaon, image du Pharaon spirituel. Mais il revint de nouveau au buisson, et non seulement au buisson, mais à la montagne. Celui qui a compris cette figure ne désespérera jamais de lui-même. Job tomba dans la misère, mais il redevint ensuite deux fois plus riche qu'avant.
Thank you.
de la pensée de la mort. L'indice véritable de ceux qui se souviennent de la mort avec un sentiment du cœur, c'est le détachement volontaire de toute créature et le parfait renoncement à la volonté propre. L'insensibilité du cœur endurcit l'intellect. L'abondance de nourriture dessèche la source des larmes. La soif et l'éveil affligent le cœur, et quand le cœur est affligé, les larmes jaillissent. Ce que je viens de dire paraîtra dur aux gourmands et incroyable aux lâches, mais un homme actif s'y essaiera avec promptitude. Celui qui en aura fait l'expérience en sourira. Mais celui qui en est encore à chercher n'en retirera que tristesse. Je garde le Seigneur devant moi, sans relâche. Celui qui garde le souvenir de la mort ne pourra jamais pécher. Il est impossible, a dit quelqu'un, tout à fait impossible, de passer pieusement le jour présent si nous ne le considérons pas comme le dernier de notre vie. De l'affliction qui produit la joie. L'affliction, selon Dieu, est une tristesse de l'âme, une disposition d'un cœur pénétré de douleur qui lui fait rechercher avec transport ce dont il a soif. Et s'il échoue dans sa recherche, il le poursuit laborieusement et s'attache à ses traces en gémissant douloureusement. Ou encore, l'affliction est un aiguillon d'or qui dépouille l'âme de toute attache et de tout lien et la fixe pour jamais, par une sainte tristesse, à la seule vigilance sur son cœur. La pénitence est une privation joyeuse de tout ce qui peut soulager le corps. Quand tu t'étends sur ta couche, pense que c'est l'image de ta déposition dans le tombeau et tu dormiras moins. Quand tu prends un bon repas à table, pense que tu serviras toi-même de triste pâture au verre et tu y trouveras moins de plaisir. Et en buvant de l'eau, n'oublie pas la soif que cause la flamme future et tu feras certainement violence à la nature. Que le souvenir du feu éternel se couche avec toi le soir et qu'il se lève également avec toi. Alors la paresse ne pourra jamais te dominer à l'heure de la psalmodie. Existe-t-il quelqu'un qui ait passé si pieusement tout son temps dans la vie monastique, qu'il n'ait jamais perdu un jour, ni une heure, ni un instant, mais les ait complètement dépensés pour le Seigneur, en pensant qu'on ne revoit jamais deux fois le même jour dans la vie ?
Oh.
De l'absence de colère et de la douceur. De même que l'eau qu'on répand peu à peu sur le feu finit par l'éteindre, ainsi les larmes d'une affliction véritable éteignent toutes les flammes de la colère et de l'irritation. Telle est la raison de l'ordre que nous avons suivi. L'absence de colère est un désir insatiable des humiliations. De même que la vaine gloire est un désir effréné des louanges. L'absence de colère est une défaite de la nature, devenue insensible aux injures, au prix de nos luttes et de nos sueurs. Le commencement de cette victoire sur la colère est le silence des lèvres quand le cœur est agité. Le progrès en est marqué par le silence des pensées devant un simple trouble de l'âme, et la perfection en est la sérénité imperturbable de l'âme sous le souffle des vents impurs. La colère est la persévérance dans une haine secrète, autrement dit le souvenir qu'on garde d'une rancune. La colère est le désir de nuire à celui qui nous a offensés. L'irritation est un embrasement intempestif du cœur. L'amertume est un mouvement plein d'aigreur qui s'installe dans l'âme. L'irascibilité est une instabilité de l'humeur et une difformité de l'âme. Comme les ténèbres se dissipent dès que paraît la lumière, ainsi le parfum de l'humilité fait s'évanouir toute trace d'amertume et d'irascibilité. Certains, parce que leur irritation passe vite, négligent d'en prendre soin et de la soigner. Ces malheureux n'écoutent pas celui qui a dit « l'instant de sa colère » et celui de sa perte. Il existe un mouvement rapide de la meule qui broie et fait disparaître en un instant plus de grains et de fruits spirituels qu'un autre durant tout un jour. Aussi devons-nous y veiller avec soin. Il peut se produire sous l'effet d'un vent violent, un embrasement soudain, capable de dévorer et d'anéantir le champ de notre cœur, plus que ne le ferait un feu de longue durée. Nous ne devons pas oublier, mes amis, que le démon mauvais se retire parfois pour un temps pour que nous négligions nos graves passions comme si elles étaient sans conséquence et que nous tombions ensuite dans des maladies incurables. Une pierre anguleuse et dure perd toutes ses aspérités et sa rudesse quand elle se heurte et se cogne à d'autres pierres et elle devient ronde. De même, quand une âme anguleuse et dure se trouve mêlée à une foule d'hommes rudes et irascibles et doit vivre avec eux, elle est placée devant cette alternative. Ou bien guérir ses propres blessures par la patience, ou se retirer. Dans ce cas, la lâche dérobade lui fera pleinement connaître sa propre faiblesse comme dans un miroir. Que le tyran de la colère soit lié avec les chaînes de la douceur, chargé de coups par la patience et tiré de force par le saint amour, et après l'avoir fait comparaître devant le tribunal de la raison, qu'on l'interroge avec soin sur tout ce qu'il concerne, ce tyran de la colère. Dis-nous, insensé et impudent que tu es, comment se nomme ton père et ta triste mère et tes fils et tes filles infâmes, et non seulement là, mais indique-nous clairement aussi quels sont ceux qui te combattent et te tuent ? Le tyran répondit : Nombreuses sont celles qui m'ont engendré. et j'ai plus d'un père. Mes mères sont la vaine gloire, l'amour de l'argent, la gourmandise et parfois la luxure. Mon père se nomme l'orgueil. Mes filles sont la rancune, l'inimitié, la chicane, la haine. Quant à mes adversaires qui me tiennent maintenant captive, moi la colère, ce sont les vertus opposées, l'absence de colère et la douceur. Celle qui me dresse des embûches se nomme humilité. Quant à savoir de qui elle tire sa naissance, demandez-lui à elle-même en temps opportun. Du mensonge. Le feu naît de la pierre et du fer. Le mensonge naît du bavardage et de la plaisanterie. Le mensonge est la destruction de la charité. Le parjure est un reniement de Dieu. Tu perdras tous ceux qui profèrent le mensonge, disent les psaumes. Quand les démons voient que dès les premiers mots, nous jugeons devoir nous écarter comme d'une maladie contagieuse des propos badins d'un funeste causeur, ils entreprennent de nous séduire par l'appât de deux pensées en nous suggérant soit celle-ci, ne fait pas de peine à celui qui parle, soit celle-là, n'affecte pas d'aimer Dieu plus que les autres assistants. Enfuis-toi sans retard, sinon dans ta prière, ces plaisanteries te reviendront à l'esprit. Souvent l'hypocrisie est la mère du mensonge et son occasion. Nous avons remarqué que toutes les passions comportent divers degrés de malice. Il en va de même pour le mensonge. Autre sera le châtiment de celui qui a menti par crainte d'un châtiment, et autre le jugement de celui qui a menti en l'absence de tout danger. Tellement par légèreté, tel autre pour satisfaire son amour du plaisir, celui-ci pour faire rire ses auditeurs, cet autre pour tendre un piège à son frère et lui nuire. Un petit enfant ne sait pas mentir. De même, l'âme libérée de toute malice. Un homme, égayé par le vin, dit involontairement la vérité en toute chose. Et celui qui est enivré par la componction ne peut pas mentir.